Mehdi Benlassen, bonjour.
Bonjour Thierry.
Alors, je rappelle que vous étiez conseiller consulaire, donc élu des Français de l'étranger, et on vient d'avoir donc les élections qui se sont tenues le 30 mai, et les résultats que vous avez obtenus ne vous ont pas permis de pouvoir siéger de nouveau. Comment vous expliquez justement le faible score que vous avez pu avoir?
Alors déjà, Thierry, je vous remercie de me donner le loisir de m'exprimer, puisque c'est vrai que je ne me suis pas exprimé depuis les résultats. J'attendais d'avoir suffisamment de recul sur l'élection et sur les suites à donner à l'élection pour m'exprimer à la fois sur la French Radio et à la fois sur mes canaux personnels. Tout d'abord, même si le score est entre guillemets faible, je tenais à remercier l'ensemble des électeurs qui se sont portés sur la liste Français du Monde Citoyen Solidaire au Portugal. Je leur remercie de nous avoir fait confiance, d'avoir validé le travail que nous avons fait pendant ces temps. Comment expliquer ce faible score? Alors, je ne sais pas si c'est ce faible score en réalité qui est une anomalie ou si c'est notre élection en 2014 qui a été une anomalie de l'histoire. Je m'explique. Il y a des entre guillemets des élus de proximité, même s'ils ont pris plusieurs formes depuis 1946 au Portugal. Depuis 1982, ils sont élus au suffrage universel direct. Et en 2014, en fait, finalement, c'est la seule fois dans l'histoire des élections françaises au Portugal où la gauche a été majoritaire et a remporté une élection. Donc, quelque part, je ne sais pas si c'est pas notre élection qui a été en 2014 qui a été un accident d'histoire ou si c'est cette défaite de 2021 qui a été finalement un événement politique. Je sais que depuis 2014, entre guillemets, la droite française au Portugal avait mal vécu, on va dire, quelque part à l'affront et s'était organisée pour essayer de rebondir en 2020 ou 2021. Force est de constater qu'ils l'ont fort bien fait. Nous, on paye, on va dire, une faible mobilisation de notre électorat sur cette élection. On paye également, enfin, on paye, si on peut dire. Il y a quand même depuis 2014, on a vu lentement, mais sûrement, sur chaque scrutin, la sociologie politique des Français du Portugal changer très fortement. Il faut le dire, c'est pas une surprise en soi. J'ai été moi-même candidat à l'élection législative partielle de 2018. Le bloc de gauche à cette élection en 2018, l'ensemble des voix de gauche représentait déjà que 30% de l'électorat français au Portugal. Et on voit finalement depuis 2014 une sociologie qui a changé et s'est installée durablement un vote très majoritairement de droite, voire d'extrême droite chez les Français du Portugal. Ce n'est que la suite logique de cette transformation, puisque aujourd'hui, le bloc de gauche chez les Français du Portugal ne représente plus que 23% contre effectivement quasiment 55% en 2014. Donc il y a des raisons qui expliquent ce faible score de la gauche si on additionne les 10 de gauche au Portugal. Mais force est de constater que entre 2014 et 2021, nous avons 5 000 Français de plus inscrits sur la liste électorale consulaire. En 2014, il y avait quelque chose comme environ 1 200 votants. Sur ces 1 200 votants, j'avais réalisé la liste Français du Monde avait réalisé 760 voix. Si on prend le score de gauche cumulé en 2021, on est aux alentours de ces 760 voix. Donc ça veut dire que le bloc de gauche réuni, hein, si on avait été réuni, et malheureusement
Donc,
nous ne l'avons pas été.
donc vous faites allusion à la liste qui était menée par Stéphane Fanucci,
Tout à fait.
Écologie Les Verts. Donc, en fait, en additionnant les deux, vous dites vous êtes exactement quasiment au même nombre de votants que
Tout
vous
à
aviez.
fait.
Donc, votre analyse, c'est qu'en fait, vous ne représentez que 700 à 800 personnes qui viennent voter. Pourtant, vous le savez. Cette année, au Portugal, on a eu beaucoup plus de votants. D'ailleurs, le Portugal fait partie des trois pays qui se sont fortement mobilisés pour les élections consulaires, parce que on sait que le score national tourne toujours autour de 14-15%, alors que au Portugal, on a largement dépassé les plus de 20% de mobilisation. Donc, pourquoi ne voit-on pas non plus un petit peu une progression quand même
Bah, forcé de constater que sur les 2 300 électeurs supplémentaires qui sont venus voter par rapport à 2014,
Ce qui est pas négligeable.
ces 2 300 électeurs, sans exception, ont tous mis un bulletin de vote, entre guillemets, de droite, dans l'urne. Voilà. Il y a notamment une forte mobilisation dans le bureau de vote Bellegarde, qui permet de creuser les écarts en faveur des partis de droite traditionnels ou des partis d'extrême droite. Alors que historiquement, les listes Français du Monde font des très bons scores, voire des excellents scores, plus haut que la moyenne dans le bureau de vote de Porto. On représente encore 21% à Porto. Sauf que la mobilisation, le taux de participation à Porto est dans la moyenne nationale, 15%, quand le taux de mobilisation à Faro est à 32%. Donc forcément, ça creuse les écarts. Et indéniablement, enfin voilà, encore une fois, on représentait 760 voix en 2014, on en représente grosso modo 790, hein, le bloc de gauche, en 2021. Donc ça veut dire que sur les 2200 électeurs, encore une fois, nouveaux qui sont venus voter, la quasi-totalité est venue voter entre guillemets à droite. Donc il y a une très très forte transformation de la sociologie française au Portugal, qui est pas étonnante, hein, qui est due à l'implantation de retraités, mais pas que. Et je pense que, ben voilà, on est dans un système de démocratie représentative. Ils ont choisi des conseillers consulaires qui correspondent le mieux à ce qu'ils sont. Il n'y a rien de choquant là-dedans.
Donc, si je vous écoute et si je vous comprends, ça veut dire que pour les années à venir, ça ne va pas être évident de défendre un petit peu les positions que vous soutenez depuis des années.
Alors, oui et non. Oui, puisque en fait, on voit que partout où la gauche, entre guillemets, est minoritaire, elle ne s'en sort que parce qu'il y a des unions, il y a une union de la gauche. Je regrette ici que nous n'ayons pas pu la faire.
Mais
Certains
pensez-vous
de
que ça puisse
mes.
être réalisable? Parce que, a priori, quand on vous entend tous les deux, donc je parle de Stéphane Fanucci et vous-même, il y a quand même, en l'occurrence, par exemple, Stéphane Fanucci a été relativement virulent sur le dossier scolaire, en l'occurrence du lycée français Charles Lepierre, donc n'a pas caché un petit peu le mécontentement et même vous a attaqué directement. Donc est-ce que vous pensez qu'une réconciliation serait possible dans l'avenir?
Sans doute, mais enfin moi, ce que je regrette d'une manière générale, cibler Stéphane Fanucci, à titre personnel, je regrette une campagne très fortement démagogique et très fortement populiste. C'est pas ma manière de faire de la politique, et ça sera jamais ma manière de faire de la politique. S'attaquer, comme ça a été fait, monter en épingle le dossier des frais de scolarité au lycée français Charles-Pierre de Lisbonne, en faisant croire que rien n'avait été fait, c'est pas ma manière de faire. Promettre aux retraités français installés au Portugal que l'on va intervenir en tant que conseiller consulaire sur le dossier du RNH alors que ça ne fait pas partie de nos compétences, ce n'est pas ma manière de faire et ça ne sera jamais ma manière de faire. À un moment donné, alors certes, ça peut être payant sur le court terme, mais on paye toujours des promesses qu'on ne peut pas tenir sur le moyen terme ou sur le long terme en politique. Certes, ce genre de comportement pendant la campagne a peut-être permis à certains partis de prospérer, mais à un moment donné, il faudra payer la note. Quand les retraités français au Portugal s'apercevront que les conseillers consulaires n'ont pas pu intervenir sur le dossier du RNH et qu'après leurs 10 ans d'exonération, ils sont posés comme n'importe quel citoyen résident au Portugal, bah, il va bien falloir que les conseillers consulaires qui leur ont promis d'obtenir mieux, s'expliquent. Et ils n'obtiendront pas mieux, ce n'est pas possible. On n'est pas des élus portugais, nous sommes des élus français au Portugal. Le RNH est une loi portugaise sur laquelle nous n'avons pas à intervenir. Donc je ne vois pas comment ces élus-là arriveront à obtenir une exonération supplémentaire ou un maintien un prolongement de la mesure. Donc, je pense que voilà, bon, on a assisté à une campagne très fortement populiste, sans doute ce qui a permis quelque part un surcroît de mobilisation. De ce point de vue-là, on ne peut pas s'en plaindre, mais je pense que la politique depuis des années souffre de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Et en tout cas, moi, je me suis pas lancé en politique pour mentir à mes électeurs. Donc, c'est vrai qu'on a pu me reprocher d'avoir une campagne qui n'était peut-être pas ambitieuse, mais qui était, enfin moi en tout cas, je l'ai voulu réaliste par rapport à ce qu'est réellement le mandat de conseiller consulaire. Je pense que je connais mieux que quiconque, notamment pour avoir été aussi président du groupe Français du Monde Écologie et Solidarité à l'Assemblée des Français de l'étranger pendant des années. Donc voilà, le comportement de Stéphane Fanucci m'a pas plus choqué que ça. Malheureusement, c'est la politique, c'est un jeu de posture. Ce qui m'a plus déçu, c'est qu'à l'échelle de la péninsule ibérique, en tout cas, Français du Monde, y compris le PS, hein, puisque je suis adhérent au PS par ailleurs, on a fait en sorte de faire des listes d'union et de se regrouper derrière les sortants. C'est ce que nous avons fait à Barcelone, c'est ce que nous avons fait à Madrid, et ça a permis à la gauche de réaliser des bons scores et d'avoir beaucoup d'élus. On ne nous a pas forcément rendu l'appareil à Lisbonne, et je le regrette, pas forcément pour mon cas personnel, je le regrette pour les en gros 800 électeurs qui ont glissé un bulletin de vote de gauche, quel qu'il soit. À Lisbonne, à Porto et à Faro. Je le regrette pour les nombreuses familles scolarisées dans les lycées français ou boursières qui ne seront pas défendues et qui ne seront plus défendues de la même manière dans les prochaines années. Je le regrette y compris pour les familles portugaises scolarisées dans ces établissements qui malheureusement peuvent redouter pour ce qu'on appelle la caisse de solidarité, parce que quand on voit le programme, excusez-moi, quand on voit le programme de M. Hervé Cardon et qu'on voit qu'il veut appliquer la préférence nationale pour certaines aides sociales françaises, on peut craindre effectivement pour le maintien de ces caisses de solidarité. Donc oui, je le regrette.
Il y a d'autres élus. Vous avez été d'ailleurs élu pendant de nombreuses années avec Laurent Goater, tout particulièrement, et Françoise Conistabilé. Vous avez travaillé ensemble pendant plusieurs années. On peut penser aussi que certains nouveaux élus, ou en l'occurrence aussi Julien Letartre, qui vient rejoindre le groupe, vont aussi pouvoir s'intéresser justement à ces dossiers.
On verra, on verra. Moi, j'ai jamais vu Laurent Goater ou Françoise Conestabile aller consulter un seul dossier de bourse en amont de la préparation du conseil consulaire. Aujourd'hui, il va falloir, je suppose que c'est Laurent Goater qui présidera le conseil consulaire. Il va bien falloir qu'il s'y colle, parce que je ne vois pas comment on peut présider un conseil consulaire sans aller consulter ne serait-ce qu'un dossier. Comment connaît-on réellement la situation des familles dans ces cas-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que fera Julien Letard, l'avenir le dira. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, je suis toujours président de l'Association Français du Monde. L'Association Français du Monde Portugal siège dans les conseils consulaires. Donc, il y aura au moins une voix de gauche dans les conseils. Dans les
Donc, ça veut dire que vous allez être attentif et vous allez rester en lien justement et donc continuer à œuvrer pendant les années à venir. Alors, ça c'était effectivement, là, je crois que vous venez de répondre par l'affirmative, en tout cas, c'est ce que je vois en vous regardant. Et moi, Mehdi, pour conclure, je voulais vous poser aussi une question, parce qu'il était question que vous puissiez rejoindre, ou en tout cas, Ségolène Royal. Vous étiez le numéro 2 pressenti pour être sur les listes pour les sénatoriales. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, c'est un dossier qui ne dépend pas de ma compétence.
Non, mais on parlait de vous partout.
Oui, non, mais tout à fait. Mais alors, il y a eu un processus de désignation qui avait été enclenché par la Fédération des Français de l'étranger du Parti Socialiste. Ce processus de désignation a été suspendu par le Bureau national du Parti Socialiste, qui a repris la main sur la désignation. Je ne sais pas du tout ce qui sortira du chapeau du Bureau national. Je ne pense pas que ce dossier soit réouvert avant la fin des régionales et des départementales, parce que le Parti socialiste est très centré sur cette élection-là pour le moment. Et je ne pense pas que du coup ce dossier-là soit clos avant, on va dire, début juillet, voire la mi-juillet. Je ne sais pas du tout quelle analyse fera le Bureau national du Parti socialiste de cette élection. C'est une élection, en tout cas les élections consulaires, qui ont permis à la gauche d'être la première force à l'étranger. Avec 165 conseillers consulaires, la gauche regroupée et la première force politique, et en particulier l'Association Français du Monde, qui a 107 conseillers consulaires. C'est la première institution avec le plus de conseillers consulaires, loin devant les LR, loin devant la République En Marche, donc, si et loin vous, devant la SFE.
Donc, si on vous propose, vous continuez normalement
Moi, comme je l'ai dit dans une réunion pas plus tard que samedi, hein, on avait une réunion interne au Conseil fédéral élargi de la Fédération des Français de l'étranger. Moi, j'ai toujours été loyal à mon parti, j'ai toujours été à la disposition de mon parti. Si le parti me demande de me retirer parce qu'il considère que je ne suis plus légitime, je le ferai. Si le parti me demande de maintenir ma candidature parce qu'ils ont besoin justement d'une figure qui représente l'association, entre guillemets, Français du Monde ADFE, puisque c'est une force majeure aujourd'hui à l'étranger, en fonction de leur analyse, je serai utile, enfin, je serai dans le combat sur la sénatoriale en fonction de ce qu'ils jugeront le plus utile. Et pour en revenir aux élections consulaires, je n'ai pas eu le loisir de m'exprimer à ce sujet, mais je tenais quand même à le dire. À la demande de mes colistiers, et après une consultation avec eux, nous avons décidé, comme par ailleurs Bruno Fenzel et la liste de La République En Marche, d'intenter un recours, donc qui sera déposé demain matin en annulation de l'élection, puisque nous estimons que notre liste n'a pas été traitée à égalité avec les autres listes, notamment par le fait que notre profession de foi n'ait pas été disponible en ligne au moment du vote électronique. En nous faisant une analyse, nous expliquerons en temps voulu sur les raisons pour lesquelles nous contestons le fait qu'elle n'ait pas été publiée, mais quand nous faisons une analyse des résultats, nous arrivons troisième au vote à l'urne, et donc nous aurions eu un siège si le vote n'avait été qu'à l'urne, comme ça a pu être le cas pour les législatives en 2017 et 2018, avec un vote à l'urne qui représentait quand même 10% des votants. Hein, en règle générale, Thierry, vous savez que lorsque l'on fait des sondages sortis des urnes, lorsqu'on publie les premiers résultats, on publie sur les 5 premiers bulletins, donc, voire sur les 10 premiers pourcents. Et il y a rarement un changement du tout au tout lorsqu'on fait ces projections-là. Donc, nous étions troisième avec 14% au vote à l'urne et nous avons eu la désagréable surprise de constater que nous passions dernier après le vote Internet avec environ 10%. Donc, pour nous, il est évident que la non-publication de notre profession de foi lors du vote Internet a changé les choses. Et donc, nous voulons, même si le Conseil d'État n'annule pas l'élection pour autant, nous voulons faire reconnaître effectivement que nous avons été désavantagés et qu'une des raisons de ce score est le fait que l'administration n'est pas publié notre profession de foi.
Bon, ben en tout cas, Mehdi Benlassen, merci beaucoup pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio et pour venir justement vous exprimer, nous faire part aussi aujourd'hui de la position que vous avez prise, à la fois peut-être pour les sénatoriales de demain, mais aussi par rapport au recours que vous engagez, tout comme Bruno Frenzel a pu le faire aussi et l'annoncer aussi sur la French Radio, dans le cadre des élections consulaires qui se sont passées le 30 mai. Et puis, on a bien compris aussi que vous restez dans le jeu politique, que vous ne quittez pas et que vous allez être très attentif un petit peu à tout ce qui va se passer. Merci beaucoup, Mehdi.
Merci Thierry pour votre
intervenu
invitation
sur notre antenne. Bonne journée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.